Je m'appelle Annie et je suis amoureuse depuis toujours. Donc voilà, j'ai épousé un garçon qui s'appelle Georges Borrel, qui est décédé depuis un an et demi et qui à un moment donné, à l'âge de 50 ans, mon frère, qui n'avait pas d'enfant, mais qui aimait beaucoup Jean-Marc, a voulu prendre sa retraite et a demandé à mon mari de lui succéder. C'est-à-dire que mon mari est devenu président, directeur général de la société CES. Et mon frère s'est mis à la retraite. Voilà. Et bon, ça s'est très bien passé. Mais peut-être que vous voulez que je vous raconte quand il y avait mes grands-parents, surtout mon grand-père. Mon grand-père, Amédée CES, c'est lui qui a créé l'entreprise en 1897. Donc nous avions fêté les 100 ans. Bientôt, il va y en avoir plus que ça. Alors, bon, mais mon grand-père avait deux enfants, Henri CES et Raphaël, qui était mon père. Mon père qui a travaillé toute sa vie à côté de M. Reynaud, aux établissements Reynaud. Ils étaient tous les deux associés. Alors que mon oncle Henri, lui, il est allé à Marseille à un lycée professionnel commercial, l'école commerciale de Marseille. Il est sorti avec un diplôme et il est revenu à Montbrun. Et là, il a dit je vais développer l'entreprise CES. Entre-temps, mon grand-père est décédé. Donc, c'est mon oncle qui a développé l'entreprise. Et il avait des ambitions. Il voulait, au début, c'était que les truffes, les produits du pays, le tilleul, les amandes. Et puis après, il a voulu s'élargir. Et il a commencé à faire du commercial avec les pays à côté, la Suisse, l'Allemagne, tout ça. Et puis après, alors, il s'est lancé et il vendait en Amérique, il vendait au Canada, il vendait de partout. Donc, on est devenu connu sur le marché des plantes. Voilà. Donc, il s'est très bien débrouillé. Malheureusement, il est mort jeune. Et ensuite, c'est mon frère Guy qui a pris le relais jusqu'au jour où il a dit qu'il ne voulait plus. Et là, entre en jeu mon mari, qui, pour Jean-Marc, a changé de métier à 50 ans et est devenu le directeur de chez CES. Et il a beaucoup développé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord fondé une société en Albanie. Parce qu'en France, les plantes médicinales, on ne les récolte plus. Les gens ne veulent plus les récolter. Donc, il a eu contact avec un Albanais et il a fondé une société en Albanie qui marche toujours et d'où on fait venir une fois tous les 10 jours un camion rempli, un semi-remorque rempli de plantes d'Albanie. Et là-bas, on a des collecteurs et on a un directeur et une petite usine pour préparer les produits. Voilà. Alors ensuite, mon mari aussi a acheté une usine de gélules à Angers pour se mettre dans la pharmacie, pharmacopée. Et puis après, alors il a gardé quelques années, puis ça marchait, mais il a laissé tomber. Après, il a créé à Buis-les-Baronnies, puisqu'on a acheté l'affaire Ducrot à Buis-les-Baronnies, il a mis en place un laboratoire pour analyser les plantes, parce que c'est devenu, il faut tout analyser, il faut que ce soit propre, alors qu'avant, les plantes dans les greniers, c'était pas très propre. Hein. Là, maintenant, c'est très surveillé. Et puis, bon, ben, ça fonctionne toujours. Et voilà, maintenant, c'est Jean-Marc qui le dirige, et qui le dirige très bien. Alors, lui, il a plus voulu faire pareil. Lui, il a laissé tomber un peu les plantes médicinales et lui, il est aromate et épice. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit notre raison, enfin, plantes médicinales, aromates et épices, maintenant c'est aromates, épices et en dernier, plantes médicinales. Alors bon, il a beaucoup mécanisé l'usine. Ce sont des, on appelle ça des salles blanches, où il y a un employé dessus qui fait descendre le produit dans des godets, enfin, et tout est mécanisé. Et tout ça, on ne le vend pas au détail, on sert les grands groupes, comme Carrefour, comme Métro, il y en a pas mal de ces grands groupes qui redistribuent. Voilà. Ensuite, il a bien sûr des clients ordinaires, personnels, et c'est là que de temps en temps, eh bien, il vend un kilo de verveine ou deux, ou ça, il a gardé encore. Voilà. Et il y a 35 employés. En ce moment, il y en a 35. Voilà. Et bientôt, mon fils va s'arrêter. Dans 2 ans, il s'arrête. Et c'est Noémie qui reprend la société. Et elle dit que ça va. Elle, du moment que la société marche, elle se sent de la faire fonctionner.
J'aimerais bien que tu nous parles... Alors là, c'est peut-être plus personnel, mais... d'Henri et de Raphaël, ton père.
Oui. Alors, ben
c'était
oui.
C'était des figures, ça.
C'était des figures. Mon père, est allé avec M. Reynaud parce que les deux grands-pères Reynaud étaient déjà ensemble et qu'après, les deux fils, Henri Reynaud et Henri Cesse, se sont mis encore ensemble. Et mon père a fait une belle carrière parce que, bon... il était bien, il était... Il n'a pas fait trop d'études, mon père. Alors que mon oncle, lui, il est allé à l'école de Marseille, de commercial, et là, il a fait de très grosses études, à cette époque. Alors, mon oncle n'était pas marié, il vivait avec nous. Et il vivait avec mon papa, ma maman, et moi, et mes deux frères. Et la maison était animée, parce qu'alors, pendant les repas, on ne parlait que travail. Moi, petite, j'ai entendu parler que travail. À tel point que des fois, j'en avais marre. Je disais à maman, je vais me cacher pour plus entendre parler de tout ça. Et puis alors, mon frère Léon, ça s'est marié. Mon frère Guy est resté avec mes parents. Et il a une compagne qui avait plus de 50 ans. Alors, j'ai pas eu qu'un père, j'ai eu deux pères. Parce que j'avais mon père, Raphaël. Mais la journée, quand même, il partait beaucoup. Lui, il allait acheter la lavande et le lavandin de partout dans la région. Donc, il partait le matin et rentrait le soir. Alors que mon oncle, il avait le bureau, à ce moment-là, c'était encore tout petit, il n'y avait pas l'usine, hein. Il avait le bureau sous la maison. On descendait l'escalier, à gauche, le bureau, à droite, l'atelier. Et mon oncle était là, il a commencé à faire ça. Son travail de négoce, là. Alors j'avais deux pères, parce que dans la journée, papa n'était pas là, mais j'avais mon oncle qui me... Et si je faisais une bêtise, maman m'appelait et il me grondait. Voilà. C'était des figures. Alors mon oncle Henri avait toujours dans son tiroir des bonbons, parce que tous les enfants qui passaient rentraient pour embrasser mon oncle et qu'il lui donnait des bonbons. Il prenait le temps de... Il faisait son courrier à la machine à taper, là. Une machine normale, là, à écrire. Hein. Et quand il avait fini, il prenait son journal, il lisait le journal. Alors, qui le ferait maintenant, un chef d'entreprise qui s'arrêterait pour lire son journal? Voilà.
Comment il a perdu son bras?
Alors, il a fait la guerre, la deuxième guerre. Et il est parti, alors je ne sais pas dans quelle infanterie il était, mais il est allé au front, carrément, à la frontière allemande, et un coup de fusil lui a sectionné le bras. Et il a été opéré par des Allemands, et il a été très mal opéré. On lui a coupé le bras, et il est revenu sans son bras à la fin de la guerre, et malade. Et maman me dit, si tu savais dans l'état qu'il était, il était maigre, il avait des boutons sans arrêt, Puis petit à petit, il s'est refait une santé, il est allé à Marseille se faire appareiller, alors il avait un bras artificiel qui mettait dans sa poche, comme ça. Alors il s'habillait, il mettait sa chemise, sa cravate, sa veste, il mettait la main qui était avec le bras artificiel dans la poche, on ne le voyait pas. J'ai une photo de lui là, si tu veux le prendre, on ne le voit pas hein, qu'il est. Et alors il s'est mis à se débrouiller, il a eu un courage extraordinaire. Il a acheté un couteau spécial, il demandait rien à personne. Il savait se faire le nœud de cravate, il savait lacer ses lacets avec la main gauche. Il savait tout faire. Il est beaucoup courageux. Voilà. Il n'a pas eu d'enfant.
Je me souviens de ton père comme quelqu'un de très chaleureux, oui. Qui aimait rire, qui aimait oui. La compagnie.
Alors il allait sur son balcon, parce que bon, tant qu'il a été en activité, bien sûr. Quoi. Mais après, il était chez lui, et il y a un grand balcon. Alors il sortait sur son balcon, et il appelait les gens, venez, venez boire l'apéritif, venez boire le café, venez ci, venez ça. Et il y avait la maison toujours pleine de monde. Maman, des fois, elle disait, mais c'est fatigant, hein. Il fallait servir ci, servir ça. Et le jour qu'il a eu ses 90 ans, ils étaient déjà accompagnés par des dames, mais bon, ça se passait très bien. Alors j'ai dit à papa, écoute, il faut ouvrir le champagne. Ah ben oui, tu as raison. Alors nous avons commencé le matin à 11h à boire le champagne, et on en a bu, parce qu'il a tellement fait venir du monde, il y en a eu 15 bouteilles étalées. Et tout le monde, oui, tout le monde buvait le champagne, et mon père aux anges. C'était un homme qui aimait le monde, qui n'aimait pas être seul. Voilà. La maison de mes parents, moi je suis née à Carpentras, mais la maison de mes parents, avec le balcon, c'était une maison avec 3 ou 4 étages, elle était habitée que par ma famille, et en bas, au rez-de-chaussée, d'un côté, il y avait le bureau, et de l'autre côté, un petit atelier. Parce que, au début, les amandes, il y avait une casserie. C'est-à-dire qu'on achetait les amandes de Provence, et on avait une machine pour les casser. Ensuite, quand elles étaient avec les coquilles et l'amande, il fallait les trier. Et on avait 30 trieuses de Montbrun sous la maison, dans l'atelier, il y avait une grande table. À ce moment-là, c'était Pierre Cadaille qui était à la casserie là-haut, qui faisait casser les amandes et qui, avec un chariot, amenait sur la table les amandes. Les femmes s'assoyaient, d'un côté les coquilles, de l'autre côté les amandes. Et mon oncle vendait beaucoup, beaucoup d'amandes à tous les nougatiers, à tous les pâtissiers de la région. Beaucoup à Boyer, à Sceaux, quand il attaquait son nougat. Et puis, il y avait 30 femmes, alors que des femmes de Montbrun, qui étaient ravies parce qu'elles étaient assises. Donc, c'était quand même pas trop pénible. Et elles gagnaient tant du kilo d'amandes. À la fin de la journée, mon oncle arrivait dans l'atelier. Alors, on travaillait jusqu'à 7 heures le soir. À 7 heures, il arrivait et toutes les femmes prenaient leur sac et attendaient leur tour, on pesait les amandes. Et c'était payé au prix du kilo. Au plus elles en triaient, au plus elles gagnaient. Alors, elles s'étaient fait, comment je peux dire, un peu un honneur d'en trier le plus possible. Elles étaient jalouses et il y en a beaucoup de dames qui, quand elles avaient envie de faire pipi, ne se levaient pas. Elle faisait sur la chaise, elle continuait de trier. Ça, c'est véridique. Et alors, des fois, il y avait de ces odeurs. Alors, mon oncle, il disait, mais enfin, quand même, levez-vous. Mais par contre, un atelier sans WC. Hein. Elle sortait, elle allait faire sous les arbres, ou je ne sais pas. Et voilà. Et il y en avait au moins 30, et des dames qui étaient avec leur mari, et qui étaient... qui se régalaient de venir. Seulement, ça ne durait pas toute l'année. Les amandes, ça durait à peu près 4 ou 5 mois. Après, bien sûr qu'elles... Mais elles n'avaient pas le chômage quand elles s'arrêtaient. Mais elles avaient gagné de l'argent. Voilà.
Et il y avait le vieux hangar, le long de la route.
Voilà. Donc, le bureau dessous, à droite, l'atelier. Et il y avait un hangar là-bas, en face de la Nari, qui était vieux, où mon oncle commençait à stocker ce qu'il achetait ailleurs. Puisqu'il a pris, il a fait le négoce quand il a commencé à vendre un peu des. Ben, par exemple, la verveine, il fallait bien qu'il achète, à un moment, en France, ça ne pousse pas. Après, le tilleul. Le tilleul, c'était. Il y avait un hangar où il y avait peut-être 50 ou 100 tonnes de tilleul. Il poussait comme ça. Et il vendait tout. Hein. Il avait des clients sur Marseille, sur de partout, qui achetaient des. C'était des coopératives, c'était des industries qui faisaient à ce moment-là les petites dosettes, les, tout ce qu'on faisait avec les plantes.
Parle-nous du marché de Villefranche.
Alors le marché de Villefranche, c'était un marché au tilleul, donc il se tenait alors, en juin, je crois que c'était en juin. Et alors à ce moment-là, ce marché, les paysans amenaient leurs tilleuls. Donc on appelle ça des grands bourrasses. Je ne sais pas si c'est un mot en français. Et les paysans défaisaient les nœuds des bourrasses et les acheteurs passaient et donnaient un prix. Alors mon oncle achetait, mais il avait quand même deux ou trois concurrents. Il en avait un au Buis, un je ne sais pas où. Et bon, c'était celui qui en donnait le plus. À la fin du marché, mon oncle donnait un ticket, comme quoi il avait, le prix avait été fait. À la fin du marché, ces paysans venaient au camion. On avait un camion et ils chargeaient le tilleul et le payaient. Alors il y en avait un assis qui avait l'argent, tout liquide. Après, il y avait mon frère Léonce. Il y a des photos encore à mes enlevées, Eric, où il pèse le tilleul. Il fallait peser tous les bourrasses. Et après, on les mettait sur le camion. Et ils venaient ici, alors là, arrivés ici, ils enlevaient les bourrasses, parce qu'il fallait les rendre, ces bourrasses. Chacun avait les siens, et ils en faisaient des gros tas. Et les paysans coquins, ils mettaient des pierres dans les bourrasses, pour que ça pèse plus lourd. Alors mon oncle les pétait. Voilà. Puis c'était ramassé salement, il y a des gens qui étaient propres, il y en a qui faisaient sécher le tilleul, dans des greniers où il y avait des saletés et ça leur faisait rien. Maintenant, ça ne pourrait plus se faire, ça. Hein. Parce que maintenant, dans l'usine, là, il y a des détecteurs de pierres, de métaux, de tout. Et si, par malheur, tu vends un produit qui a une saleté, eh bien, ça te coûte cher. Hein. Alors, avant, ce n'était pas comme ça. S'il y avait, par exemple, une saleté de chat, et que malheureusement, quand il revendait le tilleul, il le mettait en carton. Il était bon, dans une pièce, il prenait le tilleul. Alors là, on le triait sur des clés un peu en grille, comme ça, les cochonneries, puis on le triait. Une fois, on laissait passer un caca de chat. Et on a eu, mon oncle a eu reçu des petites boîtes dedans avec ça, en disant, voyez, on vous le rend, ça. Mais c'était normal, c'était sale. Voilà. Après, depuis, c'est plus comme ça. Les plantes sont conditionnées. Puisque tous les hommes sont avec des tenues blanches, c'est pas sale. C'est poussiéreux, mais c'est pas sale. La poussière, il y en a toujours. Hein. Mais c'est plus. Ils appellent ça des sales blanches. Tous les matins, ils mettent un habit blanc. Et tous les soirs, ils le mettent au sale. Et puis, il y a une entreprise qui vient, qui, une fois par semaine, nettoie tout. Hein. Et ça coûte très très cher. Mais c'est ça qui fait que maintenant, l'entreprise, c'est propre. Hein. Avant, on ne te vendait que des cochonneries.